Oui, prendre place et prendre vos Bibles pour les ouvrir dans l'Épître aux Corinthiens, premier Épître aux Corinthiens, dans le chapitre qui nous parle de la résurrection. 1 Corinthiens 15, et nous lirons les versets 13 à 23. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Un œuf qui n'est pas fécondé ne donnera jamais la vie. Nos cœurs ont besoin également d'être fécondés par le Saint-Esprit afin de manifester la vie. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et chaque dimanche de Pâques, j'aime prendre du temps pour parler de ce sujet de Pâques. Et nous avons déjà parlé ensemble, nous avons fait une année, on a fait une enquête ensemble. Des détectives, on a fait une enquête pour voir est-ce que vraiment il était ressuscité. Et on avait vu évidemment que tellement de choses sont données dans l'histoire et dans la parole que tous ceux qui veulent vraiment prendre du temps pour voir si c'est vrai, peuvent que dire que c'est vrai. Nous avions aussi réfléchi une autre année à la colère de Dieu et à la propitiation, afin de bien saisir ce que la résurrection de Jésus-Christ attestait. Une année, nous nous sommes demandé, si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce que cela changerait? Et l'année passée, nous avons réfléchi à l'implication de la résurrection dans nos relations. Et cette année, j'aimerais nous encourager à aimer Pâques. Simplement, aimer Pâques. Et pour aimer Pâques, je ne vais pas vanter tous les types de chocolat ou les manières de les apprêter ou de les manger, ou les types d'œufs, ou encore le jour de congé, ou même les vacances. Non, ce ne sera pas notre sujet de réflexion. Quand je vous dis que j'aimerais nous encourager à aimer Pâques, c'est parce que cela nous rappelle, nous montre l'œuvre de celui que nous aimons le plus au monde. Lorsque nous aimons quelqu'un, ce qui nous parle de cette personne devient agréable pour nous. Pensez à une personne que vous aimez. Une personne que vous aimez ardemment. Ça va, vous pensez à une personne là, que vous aimez vraiment beaucoup. Cette personne a peint un tableau. Elle a peint un tableau, cette personne. Et chaque partie de ce tableau vous fait penser à un aspect de cette personne. Par exemple, sa bonté. Vous voyez sur ce tableau un adulte qui prend un enfant dans ses bras. Et ça vous rappelle la bonté de cette personne. Ou alors, sa joie de vivre. Parce que vous voyez d'autres personnes qui sont en train de danser avec des visages rayonnants. Réfléchir à Pâques, c'est se mettre devant un tableau de Dieu, celui que nous aimons et qui nous a aimés le premier. Et chaque partie nous révèle qui il est et ce qu'il nous donne. Et ce matin, j'aimerais nous aider à contempler ce tableau à 6 endroits différents pour vous donner 6 raisons d'aimer Pâques. Or, il y en a plus, hein. Le tableau est beaucoup plus grand en fait. Mais on verra 6 raisons pour aimer Pâques. Les 3 premières raisons, c'est que ce tombeau vide nous révèle des aspects de Dieu, de qui il est. Ce sera les 3 premières raisons. Et les 3 dernières raisons, le tombeau vide nous garantit des dons de Dieu. Et afin de les retenir, hein, c'est comme si maintenant nous sommes devant le tableau complet, eh bien je vous montre rapidement les 6 parties, puis ensuite on va s'arrêter sur chacune d'elles. La première partie que j'aimerais vous montrer, c'est que le tombeau vide reflète aussi, que Dieu est fidèle. Le tombeau vide révèle que Dieu est fidèle. Et nous aimons nous rappeler que Dieu est fidèle. Deuxième élément que nous allons regarder, c'est que le tombeau vide révèle que Dieu est puissant. Dieu est puissant et nous aimons nous rappeler que Dieu est puissant. Troisième élément, le tombeau vide nous révèle que Dieu est amour. Et nous aimons nous rappeler que Dieu est amour. Ensuite, les trois éléments, les trois garanties, les dons que Dieu nous donne, donc c'est le quatrième élément, le tombeau vide garantit la vie éternelle. Le tombeau vide garantit la vie éternelle. Et nous aimons nous rappeler que Dieu nous donne la vie éternelle. Cinquième élément, le tombeau vide garantit la sécurité. Et nous aimons nous rappeler que Dieu nous donne la sécurité. Et sixième partie de ce tableau, eh bien, le tombeau vide garantit la délivrance. Et nous aimons nous rappeler que Dieu délivre. Vous voyez, on aime toutes ces choses. Donc si on aime toutes ces choses, on aime Pâques, parce que Pâques nous les rappelle. En 6 mots, pour utiliser 6 mots uniquement, les raisons d'aimer Pâques, c'est que cela nous rappelle la fidélité, la puissance, l'amour, la vie, la sécurité et la délivrance de Dieu. Alors prenons quelques instants pour nous arrêter sur chacune de ces raisons d'aimer Pâques devant ce tableau. Maintenant, on va un petit peu regarder plus les détails. Donc le tombeau révèle que Dieu est fidèle. C'est tellement bon de nous rappeler que Dieu est fidèle. Des siècles avant cet extraordinaire événement de la résurrection de Jésus-Christ, juste après la rébellion d'Adam et Ève, Dieu avait promis qu'il allait écraser le mal une fois pour toutes, dans Genèse 3:15. C'est là qu'il a donné cette promesse. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu annonce qu'il va sauver son peuple. Voici ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc 24, versets 44 et suivants. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, dans tout l'Ancien Testament. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Toute l'histoire de l'Ancien Testament prépare la venue de Christ et la résurrection du Fils de Dieu. Des centaines d'années s'écoulent, mais Dieu n'oublie pas, il ne se détourne pas de ses promesses. Pour nous, des centaines d'années, c'est peut-être long. Mais lui, il a le temps dans sa main. Il ne se détourne pas de ses promesses. Il n'a jamais été inquiet ni distrait. Il a fait une promesse. Et il a contrôlé les événements de l'histoire pour que, juste au bon moment, Jésus-Christ vienne et accomplisse ce qu'il avait promis. Dieu avait fait une promesse. Et il a contrôlé les événements de l'histoire pour que, juste au bon moment, Jésus-Christ vienne et accomplisse ce qu'il avait promis. Dieu est fidèle. Jésus est venu au bon moment. Il n'avait ni avance, ni retard. C'était le temps de l'accomplissement prévu par Dieu. Par ce Dieu fidèle qui accomplit toujours les promesses qu'il annonce. Dans tous ces siècles, Dieu a donné divers indices dans les textes et les événements vécus qui annonçaient la résurrection qu'il allait accomplir. J'aimerais vous donner 2 exemples. Un premier récit se trouve dans Genèse 22. Peut-être cela vous dit-il quelque chose ou rien. Ben, je vais vous aider. Abraham est appelé à sacrifier son fils qu'il aime, le fils de la promesse. Et il part de chez lui la mort dans l'âme. Son fils, quelque part, est mort dans son esprit quand il part de la maison. Et 3 jours après, il arrive au mont Moria. Là, il va sacrifier son fils Parce que selon Hébreux 11, 19, c'est ce qui est écrit dans ce texte, il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter donc les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Ça, c'est Hébreux qui le dit. Oui, tout un symbole. Un symbole, 3 jours après, son fils lui était rendu vivant. C'est un symbole qui nous parle déjà de la résurrection de Christ. 2000 ans avant la résurrection, ce récit annonçait la résurrection de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Un deuxième exemple est maintenant tiré de ce qu'un prophète a annoncé. Il s'agit d'un texte qui se trouve dans l'évangile de l'Ancien Testament, comme j'aime à l'appeler, Ésaïe 53, qui décrit si bien ce que Christ a fait sur la croix. Regardez avec moi Ésaïe 53, et on va lire les versets 10 à 12. Alors, comme pour 1 Corinthiens 15, vous pourrez aussi relire tout le chapitre hein, chez vous. Mais nous lisons ici versets 10 à 12, où nous voyons là quelque chose qui parle de la résurrection. Verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Après avoir été livré en sacrifice de culpabilité, il est dit dans ce texte, cela signifie qu'il est mort. Livré en sacrifice, c'est mourir. Et après, il est écrit, il verra une descendance et prolongera ses jours. Cela signifie qu'il vivra de nouveau. Ou bien, après les tourments de son âme, qui parle de sa mort, suit le texte, il rassasira ses regards. Il sera à nouveau vivant. 800 ans avant, par un prophète, Dieu rappelle qu'il allait accomplir ce qu'il avait promis. Dieu est fidèle. Jésus lui-même avait prévenu ses disciples à bien des reprises qu'il allait ce qui allait lui arriver. Hein, Matthieu, par exemple, nous le dit 3 fois. Jésus l'a sûrement dit plus que 3 fois. Mais Matthieu le dit à trois reprises différentes. Matthieu 16, 21, où il dit « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Matthieu 17, « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent très attristés. Ou Matthieu 20 encore, 19, « Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagelleront et le crucifieront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Hein, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il annonce arrive. Dieu est fidèle. Et le tombeau vide, en fait, révèle que Dieu est fidèle. J'aime cette partie du tableau de Pâques. Il est fidèle. Donc quand vous verrez un tombeau vide, eh bien vous dites, mais il est fidèle, il l'avait annoncé. Il fait ce qu'il dit. Le tombeau vide nous permet de lui faire totalement confiance. Il dit par exemple qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien le tombeau vide est une preuve de sa fidélité. Voilà pourquoi nous aimons Pâques. Et voilà un élément que je vous donne pour nous aider à encore plus aimer Pâques. Si le tombeau vide révèle que Dieu est fidèle, nous allons voir une deuxième raison d'aimer Pâques. C'est que le tombeau vide révèle que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Essayez d'imaginer maintenant l'autorité, le pouvoir que vous devriez avoir pour contrôler toutes les situations partout dans l'univers, dans tous les temps. Bon, là, j'ai de la peine à s'imaginer tout ça, en fait. De toutes les situations dans tout l'univers, déjà juste ici, dans Apeuzeux, de contrôler tout ce qui s'y passe, il faut une certaine puissance. Mais partout, dans tous les temps. Non seulement on contrôle les situations, mais toutes les relations, de manière à agir à ce qu'il se passe exactement ce que nous avions annoncé. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Et Jésus est venu exactement au moment voulu accomplir exactement ce qu'il était appelé à faire. Et bien des textes dans la Bible nous parlent de la puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu. On a lu le psaume 104 tout à l'heure qui nous en parlait. Jérémie 27,5 par exemple, que je vous lis ici. « C'est moi, donc c'est l'Éternel qui parle, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. » Dieu peut tout faire ce qu'il veut. Dieu peut tout faire ce qu'il veut et sa puissance n'a que sa volonté pour limite. Parce qu'il ne va pas faire des choses qu'il ne veut pas. Dieu peut tout faire ce qu'il veut et sa puissance n'a que sa volonté pour limite. Il peut effectuer toutes les plaies d'Égypte et même séparer une mer en deux. Il peut ouvrir le sol et engloutir ceux qui se révoltent. Il peut faire tomber des murailles. Il peut faire reculer le soleil. Mais qu'est-ce qui pourrait encore plus montrer la puissance de Dieu? Ah, les enfants, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour nous montrer sa puissance? Pour qu'il est puissant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait porter quelque chose de très lourd. C'est vrai, ça montrerait qu'il est fort. Mais quoi encore? Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui redonne la vie à quelque chose qui était mort? Un animal qui est mort, par exemple, puis il vient, puis tac, cet animal vit de nouveau. Ça, c'est de la puissance! Hein? Avez-vous déjà même entendu parler de quelqu'un qui, quand il donne cette vie, elle ne s'arrête plus jamais? Plus jamais! Ça, c'est de la puissance! Peut-il y avoir une plus grande démonstration de la puissance que d'avoir la puissance sur la mort? Par la puissance extraordinaire et admirable de Dieu, Jésus s'est défait de sa momie funéraire et est sorti du tombeau. Le tombeau vide nous montre la puissance de Dieu. Les humains sont capables, c'est vrai, de choses incroyables. C'est vrai, il y a des choses incroyables qui se font actuellement. Mais tous vont mourir. Et personne ne peut rien contre la mort. Même ceux qui vous annoncent des vies beaucoup plus longues. Beaucoup d'ailleurs sont déjà morts. Vous savez, il y a des gens sur Terre qui peuvent lancer des bombes atomiques. Ils peuvent envoyer des sondes dans l'espace. Ils peuvent envoyer des milliers d'hommes se battre pour une cause. Mais personne n'a ressuscité un mort. Personne. Donner la mort, c'est relativement facile. Mais donner la vie, ça c'est vraiment un signe de puissance. Et cet aspect du tableau de la Pâque, en fait, me rend fier. Mais oui, vous savez, ce petit garçon-là qui va vers ses copains et qui lui dit « Mon papa, c'est le plus fort. Il peut porter des sacs de 50 kilos. » Eh bien, devant le tableau de la Pâque, je suis fier de mon Père Céleste. Il est le plus puissant. Il peut ressusciter de la mort. Il peut donner la vie où il n'y en a pas. Et il peut donner une vie qui ne s'arrête pas. C'est le meilleur. C'est le plus fort. D'être fier de notre Dieu. Pourquoi on serait fier d'autre chose et pas de Dieu? Fier de lui. Et s'il a la puissance de donner la vie, il a la puissance pour tout ce qu'il veut. C'est aussi ça que Pâques nous enseigne, sur la puissance de Dieu. C'est pour cela que nous aimons Pâques et que j'espère que nous l'aimons encore plus. Mais non seulement Pâques nous révèle la fidélité et la puissance de Dieu, mais une autre partie du tableau nous révèle encore son amour. C'est notre troisième point, le tombeau vide révèle que Dieu est amour. Pourquoi Dieu ferait-il quelque chose d'aussi extrême? Pourquoi même s'intéresse-t-il à nous? Ou chercherait-il à nous sauver? Pourquoi voudrait-il sacrifier son propre fils? Eh bien, non seulement parce que Dieu nous aime, mais parce qu'il est lui-même la définition de l'amour. Ce n'est pas parce que nous sommes aimables, c'est parce qu'il est amour en lui-même. Vous connaissez bien ce texte de Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 1 Jean 4,8 nous parle de ce Dieu. Il a dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Vous et moi avons besoin de reconnaître que cet amour n'était pas motivé par ce qu'il a vu en nous. Cet amour n'est pas motivé par ce qu'il voit en nous. Il a été motivé par ce qui était en lui. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Alors même que nous ne sommes pas aimables et que nous sommes rebelles, remplis d'orgueil, cherchant à vivre selon nos propres voies, Dieu nous aime. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est Romains 5, 8, que, texte que j'aime beaucoup, hein, qu'on a déjà parlé ensemble, qui nous dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Donc il n'y avait rien de bon encore. Nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu n'a pas laissé Christ dans le tombeau. Là, on va voir maintenant un élément de l'amour de Dieu en lien avec Christ, puis ensuite on verra l'amour de Christ aussi pour nous. Hein. Mais Dieu n'a pas laissé Christ dans le tombeau, et cela manifeste l'amour de Dieu de deux manières. Premièrement, cela manifeste l'amour de Dieu envers son Fils, car il ne l'a pas laissé mort. Il était d'ailleurs impossible que Jésus reste dans la tombe à cause de l'amour du Père qui ne l'y aurait pas laissé. Dieu aime son Fils, et l'aime d'un amour qui dépasse ce qu'on peut même imaginer. Vous vous souvenez peut-être, lors du baptême et de la transfiguration, Dieu lui-même parle. On n'entend pas souvent la voix de Dieu, hein, mais il a parlé, et les gens ont pu l'entendre. Et il a dit ceci, que Jésus était son Fils bien-aimé, l'objet de son affection. Et Pierre, en repensant à cela, dit en 2 Pierre 1,17, car il, donc Jésus-Christ, a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand dans la gloire pleine de majesté, il fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et personne d'autre n'est l'objet d'une affection si particulière de Dieu qui aime son Fils d'une manière si totale qu'il ne pouvait pas le laisser dans le tombeau. C'est une preuve d'amour, cette résurrection, de Dieu envers son Fils. Et deuxièmement, c'est aussi une preuve d'amour de Dieu envers nous, pour tout le peuple. Parce qu'en ressuscitant Jésus-Christ, il indique clairement que le sacrifice de Jésus est suffisant pour tous ceux qu'il représente et qu'ils sont bienvenus dans cette relation intime avec Dieu. Donc le fait que Dieu ressuscite Jésus-Christ manifeste l'amour envers nous. Quand vous voyez le tombeau vide, vous vous dites, c'est son amour. Je suis accueilli dans sa relation intime avec lui en Jésus-Christ. Et afin de saisir que l'amour de Dieu se manifeste de manière très puissante dans cette résurrection, nous pouvons nous rappeler que Jésus lui-même est Dieu. Et que par cette résurrection, ça c'est un élément aussi très fort, il a pris un corps éternel qui porte les marques de ce sacrifice pour nous. Il portera à tout jamais les marques de ses clous, et de son côté, percé, à tout jamais. Et cela manifeste l'amour qu'il a pour nous. Par rapport à ça, j'ai lu l'histoire d'un garçon qui est né sans oreille. Cela se passe en Angleterre. Et quand ce petit garçon est arrivé à l'école, eh bien, la moquerie des autres l'ont fait terriblement souffrir. Et sa maman avait un très grand souci pour lui, se demandait, mais comment, quel sera l'avenir de notre fils ? Un jour, le jeune homme disparut. Personne ne savait ce qu'il était devenu, enfin, du moins la plupart. Mais quelques semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital et on lui avait greffé deux belles oreilles. Quand sa mère, que l'on n'avait pas vue non plus depuis quelques semaines, parut à nouveau en public, on eut la clé de l'énigme. Spectacle étrange et douloureux, elle n'avait plus d'oreilles. Dans son amour immense, elle avait pris sur elle l'infirmité de son fils et en avait porté la marque toute sa vie durant. Jésus, par amour pour nous, a pris nos infirmités. Par amour pour nous, il a pris nos infirmités. Son corps a été marqué par cet acte, et ce corps sorti du tombeau, bien que parfait et vivant pour l'éternité, est marqué à jamais par cet acte d'amour. Le tombeau vide révèle le Dieu et Père fidèle, puissant et plein d'amour. Voilà pourquoi nous aimons Pâques. Et cette partie du tableau est simplement extraordinaire et nous pousse à chercher le contact avec ce Dieu d'amour. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Pourquoi ne pas chercher contact avec lui? Et si le tombeau est vide, ce tableau de Pâques extraordinaire nous révèle les aspects de Dieu. On a vu fidélité, puissance, amour. Vous pouvez continuer à chercher d'autres éléments. Je vous ai dit, c'est beaucoup plus large. Mais nous y trouvons également des garanties. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le tombeau vide garantit la vie éternelle. La vie éternelle. Quand vous voyez ce tombeau vide, vous dites, mais c'est la vie éternelle qui nous est donnée. Peu importe le déroulement que votre histoire semble avoir avec ses routines, ses progrès très lents, ses difficultés, c'est une marche vers une conclusion glorieuse, mes chers frères et sœurs. C'est une marche vers une conclusion glorieuse. Jésus, malgré tout ce qu'il a souffert, les limitations qu'il a vécues, savait que la résurrection était devant lui. Et si vous êtes en Christ, il y aura un moment où Dieu vous ressuscitera de ce monde brisé pour vous faire vivre dans un paradis où le péché et la souffrance n'auront plus leur place. On connaît bien ce texte d'Apocalypse, hein, 21:4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni cri, car les premières choses ont disparu. Si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il nous ressuscitera aussi pour la vie éternelle. Parce que Jésus est le prémisse, le premier qui ouvre le chemin, le modèle, il est la preuve que cela arrivera. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15:20. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est le prémisse de ceux qui sont décédés. Pour illustrer ça, on pense à un roi qui, durant des années, a annoncé qu'il allait construire une maison pour chacun de ses sujets. Il en a donné le plan, il a préparé tout le matériel, et un jour, il construit la première maison, la maison modèle pour son fils, qui sera ensuite copiée pour tous. Eh bien, c'est la preuve pour son peuple qu'il est capable de construire cette maison et donne la garantie à tous ceux qui attendent leur maison qu'il va le faire. Ils en ont la preuve, et ils ont le modèle qu'ils peuvent même aller visiter. C'est ça, en fait. Il l'a fait. Et j'aime cette partie du tableau de Pâques qui m'indique que le tombeau vide est une garantie de la vie éternelle. Car peu importe ce qui m'arrive dans ce pèlerinage ici-bas, je sais que Dieu me donne la vie éternelle, comme il l'a donnée à Jésus-Christ. En lui, je suis certain de l'avoir aussi. En fait, le tombeau, le lieu de la mort, il est vide. Il n'y a plus de mort. Le lieu de la mort est vide. C'est la vie éternelle qui attend celui qui place sa confiance dans le ressuscité. Une deuxième garantie après la vie éternelle, c'est la sécurité. Peu importe ce sentiment de combien imprévisible et hors de contrôle semble notre vie, Jésus règne. Et il va continuer à régner jusqu'à ce que l'ennemi final soit sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, le chapitre de la Bible sur la résurrection par excellence, nous dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Alors ça ne signifie pas que vous allez éviter les gémissements de la vie dans ce monde déchu. On connaît bien ce texte dans Romains 8, hein, où il est dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Nous faisons partie de cette création. Mais cela signifie que rien ne peut nous séparer de l'amour et de la protection de Dieu. Dans le même chapitre de Romains 8, connais bien ce texte où il est dit « Car je suis persuadé que ni la mort » intéressant qu'il ait parlé de mort ici « ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Ça signifie que la mort elle-même sera vaincue pour nous aussi. Un jour, il n'y aura plus de mort. Oh, c'est fantastique. Plus de mort, plus de péché. Oh, c'est juste fantastique. C'est certain. Vous savez pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Il est vide. Plus de mort, plus de péché, plus de toutes ces choses-là. Il est vide. Tant que votre garde du corps est vivant, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous êtes en sécurité. Surtout si vous savez que ce garde du corps est tout puissant. Donc tant que votre garde du corps est vivant, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour votre sécurité. Surtout si vous savez qu'il a tous les pouvoirs. Le tombeau vide nous indique que Jésus est vivant. Et Voici ce qu'il a dit après être sorti du tombeau. Donc, après être sorti du tombeau, plus tard, il a dit ceci à ses disciples. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est lui notre garde du corps. Le tombeau vide nous garantit la sécurité. Notre garde du corps, qui est aussi notre avocat d'ailleurs, est bien vivant. Ne craignons rien. Car même si nous mourrons physiquement, nous sommes sous sa protection éternelle. Après la garantie de la vie éternelle, de la sécurité, nous arrivons à notre troisième garantie que le tombeau vide nous donne. Le tombeau vide garantit la délivrance. Peu importe l'état désespéré ou faible dans lequel vous pensez être ou être, vous recevrez toutes les grâces dont vous avez besoin pour persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est une promesse. Dieu nous l'a dit. Il nous délivrera toujours. Il n'a pas dit qu'il nous délivre dans le sens qu'on n'a pas de souffrance. Mais il nous délivrera toujours. Les grâces futures sont toujours accompagnées de promesses de grâces présentes. Même si c'est vrai, les délivrances présentes sont un pâle reflet de la délivrance à venir. Mais Dieu pourvoira à tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous le voyez face à face. Dieu pourvoira à tout ce que vous avez besoin jusqu'à ce que vous le voyez face à face. 2 Pierre 1:3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Tout nous a été donné. Nous avons la garantie de la délivrance. Et j'aimerais maintenant vous lire une histoire touchante liée à Pâques, et vous verrez plusieurs éléments qu'on a vus ce matin dans cette histoire. Il s'agit de Jérémie et de son œuf. Jérémie est né avec un corps difforme et attardé mentalement. À 12 ans, il était encore en deuxième année d'école primaire et paraissait incapable d'étudier. Il irritait constamment son institutrice, il se tortillait sur son siège, bavait, poussait des grognements. Parfois, il parlait clairement et distinctement, comme si un rayon de lumière avait pénétré les ténèbres de son cerveau. Un jour, l'institutrice demanda aux parents de Jérémie de venir la voir à l'école. Lorsqu'ils s'assirent sans bruit dans la classe vide, l'institutrice leur dit « Jérémie devrait absolument aller dans une école spécialisée. Ce n'est pas juste qu'il soit avec des enfants plus jeunes que lui et qui n'ont aucun problème particulier pour étudier. Il y a quand même 5 ans de différence entre lui et les autres élèves. » La maman de Jérémie pleura doucement dans son mouchoir et son mari lui prit la parole. « Mademoiselle, il n'y a aucune école de ce genre dans les environs. Et Jérémie serait très choqué si nous devions le retirer de cette école. Nous savons qu'il aime beaucoup cet endroit. » L'institutrice resta assise un très long moment après le départ des parents de son élève, tout en regardant fixement la neige au dehors. Le froid semblait s'infiltrer dans son âme. Elle désirait sincèrement sympathiser avec ces gens-là. Après tout, leur enfant souffrait d'une maladie mortelle, mais ce n'était pas juste de le garder dans sa classe. Elle devait enseigner 18 élèves, plus jeunes que lui, et Jérémie était une source de distraction. Pourquoi continuer à perdre son temps? Comme elle réfléchissait à la question, un sentiment de culpabilité l'envahit. « Ô Seigneur, dit-elle tout haut, je suis encore en train de me plaindre, alors que mes problèmes ne sont rien comparés à ceux de cette pauvre famille. Aide-moi, s'il te plaît, à être plus patiente avec Jérémie. » À partir de ce jour-là, elle essaya vraiment d'ignorer les bruits de Jérémie et son regard sans expression. Un jour, il s'approcha de son bureau en boitant, traînant sa mauvaise jambe derrière lui. « Je vous aime, mademoiselle », s'exclama-t-il assez fort pour que toute la classe l'entende. Les autres élèves rigolèrent et le visage de l'institutrice devint rouge. Elle balbutia « Merci, c'est très gentil. Maintenant, retourne à ta place, s'il te plaît. » Le printemps approchait, les enfants étaient fous de joie à la pensée de la fête de Pâques qui s'approchait. L'institutrice leur raconta l'histoire de Jésus, et pour souligner l'idée de la vie nouvelle, elle donna à chaque enfant un gros œuf en plastique qu'on pouvait ouvrir. « Maintenant, leur dit-elle, je veux que vous emportiez ceci à la maison et que vous le rapportiez demain après avoir mis dedans quelque chose qui exprime pour vous une nouvelle vie. Comprenez-vous ? « Oui, mademoiselle, » répondirent les enfants, débordant d'enthousiasme. Tous, excepté Jérémie. Il écoutait très attentivement et ses yeux ne quittaient plus le visage de l'institutrice. Il ne fit même pas ses bruits habituels. Avait-il compris ce qu'elle avait dit sur la mort et la résurrection de Jésus ? Avait-il compris son devoir? Peut-être devrait-elle téléphoner à ses parents pour leur expliquer le projet. Ce soir-là, l'évier de la cuisine de l'institutrice se boucha. Elle téléphona à son propriétaire, attendue une heure avant qu'il ne vienne. Après cela, elle avait encore des courses à faire, une blouse à repasser, un contrôle de vocabulaire à préparer pour le lendemain. Elle oublia complètement de téléphoner aux parents de Jérémy. Le matin suivant, 19 enfants vinrent à l'école en riant, en parlant, et tous placèrent leur « e » dans le large panier d'osier qui était sur le bureau de l'institutrice. Après la leçon de mathématiques, le temps d'ouvrir les œufs arriva. Le premier œuf, l'institutrice trouvera une fleur. « Oh oui, dit-elle, une fleur, c'est certainement le signe d'une nouvelle vie. Lorsque les plantes sortent de la terre, nous savons que le printemps est là. » Une petite fille de la première rangée leva sa main et s'écria « C'est mon œuf, mademoiselle !» L'œuf suivant contenait un papillon en plastique qui semblait réel. L'institutrice le souleva et dit « Nous savons que tous qu'une chenille change, grandit et devient un papillon magnifique. Oui, ceci aussi est une nouvelle vie. » La petite Aurélie sourit fièrement et dit « Mademoiselle Meunier, cet œuf, c'est le mien. » L'institutrice trouva ensuite un morceau de rocher recouvert de mousse. Elle expliqua également que la mousse parlait de la vie. Benjamin cria du fond de la classe avec son visage rayonnant « Mon papa m'a aidé !» Lorsque l'institutrice ouvrit le quatrième œuf, elle retint son souffle. L'œuf était vide. Elle se dit que ce devait être l'œuf de Jérémy et qu'il n'avait sans doute pas compris les instructions. Si seulement elle n'avait pas oublié de téléphoner à ses parents. Et afin de ne pas l'embarrasser, elle mit doucement l'œuf de côté et avança sa main pour en prendre un autre. Soudain, Jérémy parla et dit « Mais mademoiselle, vous ne voulez pas parler de mon œuf ?» Troublé, lui dit « Mais Jérémy, ton œuf est vide ?» L'enfant la regarda alors dans les yeux et lui dit « Oui, mais la tombe de Jésus était vide aussi !» Le temps s'arrêta. Lorsqu'elle put reparler, l'institutrice lui demanda « Sais-tu pourquoi la tombe était vide ?»« Oh oui, répondit-il, Jésus a été tué, mis dedans, et après son père l'a ressuscité. » La cloche qui annonça la récréation sonna. Dès que les enfants furent sortis de la classe pour aller dans la cour, l'institutrice se mit à pleurer. Le froid intérieur se dissipait complètement. 3 mois plus tard, Jérémy mourut. Ceux qui se rendirent à la morgue furent surpris de voir 19 œufs au-dessus du cercueil. Tout était vide. Jérémy était délivré de son corps difforme et de son retard. Il avait compris que le tombeau était vide et que cela indiquait la délivrance de la malédiction de la mort. C'est la troisième garantie de ce tableau de Pâques, la garantie de la vie éternelle, la garantie de la sécurité et la garantie de la délivrance. Nous avons vu ce matin 6 raisons d'aimer Pâques. 3 qui sont liées à la révélation de Dieu qui est, vous souvenez, fidèle, puissant et amour. Et nous avons vu 3 éléments liés à des garanties, la vie éternelle, la sécurité et la délivrance. Or, laquelle de ces 6 raisons est la plus encourageante pour vous? Des questions que je vais vous laisser maintenant. C'est vous qui allez faire vos applications personnelles. Laquelle est la plus importante pour vous? Comment pouvons-nous nous rappeler ces vérités après Pâques? Pas seulement à Pâques. On pourrait par exemple les écrire, ou les afficher, en parler, enfin, etc. Ou écrire un petit mot à quelqu'un. Qui autour de vous aurait besoin qu'on lui rappelle une de ses raisons d'aimer Pâques? Comment pourriez-vous lui parler de cela cette semaine et l'encourager avec les vérités de l'Évangile manifestées à Pâques? Et pour faire cet exercice, vous pourrez vous poser la question, mais comment Dieu a-t-il montré sa fidélité envers moi? Comment Dieu a-t-il montré sa puissance? Comment Dieu a-t-il montré son amour? Comment les garanties de la sécurité, de la vie éternelle, de la délivrance changera votre approche de la vie cette semaine? Comment se souvenir de Pâques toute l'année, en fait? Alors, je vous laisse avec ces questions, parce que vous avez chacun des vies différentes et chacun des applications qui sont en lien avec ce que vous vivez. Et je vous souhaite donc d'aimer encore plus Pâques pour ces 6 raisons, la fidélité, la puissance, l'amour de Dieu qui sont révélés dans la vie éternelle, la sécurité et la délivrance qui nous sont garanties. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, C'est un jour extraordinaire que ce jour de Pâques. Et lorsque nous commençons à réfléchir à ton œuvre, à qui tu es, à ce tableau magnifique que nous pouvons admirer, mais Seigneur, nous ne sommes que submergés par tant de grandeur, par tant de bonté. Nous voulons, Seigneur, te prier que ton esprit puisse fixer dans nos cœurs et dans nos pensées ces vérités de ta fidélité, de ta puissance et de ton amour. Et que cela ne soit pas simplement une information, mais que cela ait un réel impact dans la manière dont nous vivons. Tu vois que nous sommes parfois submergés par les soucis. Aide-nous, Seigneur, à nous rendre compte que tu es un Dieu fidèle, puissant et aimant. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous donnes ces garanties de la vie éternelle, de la sécurité, de la délivrance. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des vérités. Et le tombeau vide le prouve. Sois loué, sois béni, sois adoré. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.